Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leur bottes.
Lorsque j'ai rencontré Lucille, elle était stagiaire. À cette période de sa vie, jamais elle n'aurait imaginé avoir un élevage de lapins Angora. Pourtant, quelques années plus tard, c'est bien pour parler de cette production que je l'ai rencontrée. Tout en conservant son métier de salariée, elle a développé une activité agricole. Au détour du confinement, d'une rencontre décisive avec une agricultrice qui voulait transmettre son savoir-faire, elle s'est lancée. Elle vend aujourd'hui sa laine et ses créations à base des poils de ses 19 lapins Angora. Son activité, qui est en plein développement, lui permet d'allier la production agricole qui la passionne avec une dimension artisanale et artistique dont elle a besoin pour s'épanouir. Il lui est indispensable d'aller jusqu'au bout de son parcours de production en travaillant son produit et en le commercialisant. Dans cette vie bien remplie, elle peut compter sur le soutien sans faille de sa famille. Un matin caniculaire au mois d'août, nous avons discuté transmission des savoirs, cycle poilier et pluriactivité. Allez, on essaie ses bottes ? Bonjour Lucille.
Bonjour Mathilde.
Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît?
Donc moi c'est Lucille Piermé, j'ai 28 ans, je suis salariée dans une OPA et en même temps j'ai développé un atelier d'élevage de lapins Angora.
D'accord. Alors tu dirais que t'es quelle agricultrice?
Je suis multitâche. J'essaye de répartir mon temps entre mon métier de salarié et mon métier ma petite exploitation.
Alors question rituelle, peut-être que tu en as pas, mais comment elles sont tes bottes?
Alors mes bottes j'en mets que l'hiver, l'été je mets des baskets parce que il fait sec, mes bottes c'est des aigles néoprènes simples et efficaces.
Ok, on va repartir de ton enfance, est-ce que tu peux me raconter où est-ce qu'elle s'est passée, dans quel contexte, jusqu'à la fin du primaire, c'était quoi tes occupations, tes passions, enfin voilà, comment s'est déroulée ton enfance?
Mon enfance, je dirais qu'elle était ensoleillée, j'ai grandi à la campagne, mes parents sont paysans et je passais beaucoup de temps dans mon jardin en fait. Enfin, ma mère nous a beaucoup éveillés aux plantes, aux animaux. On a passé beaucoup de temps avec mon frère et ma sœur dehors. Mon père étant agriculteur, on passait aussi du temps avec lui. Et ouais, je dirais que c'était une belle enfance. En tout cas, je souhaite ça à mes enfants.
D'accord. C'était dans quel coin de France
C'était dans la Marne.
D'accord.
Donc en Champagne-Ardenne.
Ok.
Et donc mes parents sont en grande culture.
D'accord.
Et après on avait des animaux mais de compagnie quoi.
D'accord.
Pas d'élevage.
Ok. Quand tu dois continuer ton parcours scolaire, j'imagine que tu vas au collège classique.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta scolarité?
Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai toujours été plus littéraire que maths, hein, concrètement, je pense que tout le monde le dira. Mais j'ai arrivé à ma première année de lycée, je me suis ennuyée, mais vraiment, je pense que ouais, j'ai compris que c'était pas pour moi les études générales. Et j'ai voulu partir en lycée agricole, mais ça a été difficile en fait, parce que tous mes profs de langue, notamment, m'ont dit texto que c'était vraiment du gâchis de faire ça. Bon, j'étais issue du milieu agricole, donc ça m'a confortée un peu. Je me suis dit non, c'est pas le cas, mais c'est vrai que il y a eu un peu ce moment de doute à cette époque-là, parce que, concrètement, on nous encourageait pas du tout, à aller dans ce cursus quoi.
Et tes parents qui étaient agriculteurs, d'entendre ce discours-là de la part des profs, ça leur faisait quoi?
Je pense qu'ils se demandaient aussi, moi mon père avait fait les études mais minimum à l'époque pour s'installer. Donc ce qu'ils voulaient surtout c'est qu'on trouve ce qu'on veut. Enfin peu importe ce qu'on faisait, hein. On a tous les trois fait des études différentes avec mon frère et ma sœur. Mais d'entendre ça, ça les a pas scandalisés, ça les a plutôt interrogés. Je veux dire concrètement, est-ce que vraiment si les profs disent ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment il y a...
Ouais, il y avait encore la parole du prof qui était...
Ouais. Et puis j'étais bonne à l'école, alors c'est vrai qu'ils se disaient est-ce qu'elle va pas flinguer un peu son parcours, quoi.
Ouais.
Mais pas du tout. Finalement, j'ai été en bac, STAV, ça s'est bien passé.
Donc, STAV, c'est
sciences et techniques de l'agronomie et du vivant.
D'accord.
C'est un bac général et techno.
Ouais.
Dans lequel on intègre déjà la zootechnie, l'agronomie. Enfin, ça mettait déjà un pied dans le milieu.
D'accord, ok.
Et puis j'étais plus dans mon... Enfin, c'était vraiment une atmosphère qui me plaisait, quoi,
ouais.
Ce milieu-là. Après, j'ai fait un BTS AXE, une licence pro agronomie.
BTS AXE, c'est gestion.
Ouais.
Ok.
Ouais. Bon là, c'est un peu plus dur parce
ouais,
que
c'est les maths. Là.
ouais. C'est un truc que j'avais pas vu du coup, mais ouais. Concrètement, ça c'était pas mon truc, mais bon, j'ai passé cette étape. Ensuite, j'ai fait une licence pro et ensuite je suis partie en master de développement territorial. Mmh. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs.
C'est vrai.
Parce que dans ma deuxième année, j'ai fait un stage sur le projet témoin d'installer en Massif Central.
Ouais.
J'ai découvert GIA et j'ai découvert aussi plein de types d'agriculture partout en France parce que je faisais des audits aussi.
Oui.
Et là, j'étais sûre de ce que je voulais. Enfin, j'étais sûre du milieu dans lequel je voulais travailler.
Et... Du coup, t'as fait un parcours alors technique et professionnel avec une licence pro. La licence pro, c'était agronomie, mais du coup, c'est hyper scientifique, l'agronomie aussi.
Ouais, c'était le titre qui était agronomie, mais concrètement, je sais pas si je devrais dire ça. Disons que c'était plus une ouverture sur le monde professionnel agricole. On rencontrait des OPA, etc. Mais on n'était pas...
Vous n'étiez pas au calcul de la...
J'ai pas fait d'agro pur et dur.
T'as pas calculé l'azote qu'il fallait intégrer sur le climat
plante. Non, on valait mieux pas.
Bon, on va voir, tu dois bien calculer une ration au bout d'un moment pour des lapins, on en reparlera. Quand tu as fini cette licence pro, tu es partie sur un diplôme qui était dispensé par une université, donc ça veut dire que tu es revenue vers le général en fait.
Oui, ben en fait je suis revenue vers le... Ce qui m'avait plu en licence, c'était que j'avais fait un stage sur un drive fermier, sur les circuits courts, etc. Mmh. Et en fait je trouvais ça super d'avoir le lien territoire.
D'accord.
Et c'est vrai que dans le milieu agricole, on... En tout cas, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas trop ce volet-là.
Ouais.
Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir le lien agriculture, territoire, équilibre sur le territoire, économique, social, environnemental. Et c'est vrai que le master m'a apporté ça.
D'accord.
C'était pas évident parce que je sortais complètement du milieu agricole.
Ouais.
Mais j'ai appris plein de choses en rencontrant des gens d'horizons vraiment différents. Qui avait aussi des points de vue mais hyper différents des miens, donc au début quand on a vécu qu'avec des gens qui pensent comme nous, c'est quand même
se confronter à la à la contradiction, ça doit pas être évident.
Mais en fait ça fait du bien, enfin moi je trouvais que ça apprend la vie en fait.
Justement, face à potentiellement ces contradictions ou ces différences de point de vue, tu t'es placé plutôt en pédagogue en disant « je viens de ce milieu-là, donc je suis en aptitude de vous expliquer certaines choses que vous critiquez » ou finalement tu t'es dit « non, le combat est perdu d'avance et je vais peut-être pas me griller à... ».
Bah, je pense qu'au début, j'étais un peu plus frontale, on va dire. Et puis, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il faut être tolérant, il faut accepter les points de vue. Ça ne nous empêche pas d'avoir le nôtre, de pas répliquer. Enfin, pour autant, il faut aussi démentir quand il y a vraiment des énormités. Mais il y a des fois, il y a des gens, peu importe ce qu'on va leur dire, ça rentrera pas. Donc, moi, je trouvais que ça me faisait du bien de me mettre à la place des gens et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils avaient ce point de vue. Bon, il y a des fois où il y a des gens, j'avais pas le même point de vue, il y avait rien à faire, mais moi, je pense que c'est bien aussi d'avoir de l'empathie ou de se mettre à la place des gens. Je trouve que c'est le premier travail à faire, ne serait-ce que pour argumenter derrière peut-être,
oui,
mais
sûr.
En tout cas, c'est aussi un travail sur soi, quoi. Ça fait mûrir aussi.
Ouais.
Et ça fait comprendre pourquoi. Enfin, moi en tout cas, j'avais toujours fait des études agricoles et il y a des choses je m'étais pas posé les questions. Bah pourquoi on fait ça? Pourquoi? Bah là au moins j'ai eu à me les poser et ça m'a permis d'être plus solide.
T'as trouvé des réponses et plus facilement d'argumenter quoi.
Ouais.
Est-ce que pendant toutes ces études là, tu l'as dit, tes parents ont une exploitation. Je sais pas si tes frères et sœurs ils étaient intéressés autant que toi par l'agriculture.
Non.
Donc est-ce que tu t'es posé la question de la reprise?
Oui. Ouais.
Ouais.
De voir beaucoup de gens qui avaient ce projet-là, ça m'a fait me poser la question. Après, je savais pas encore dans quoi. Moi, en tout cas, j'aimais les bêtes déjà à l'époque plus que la culture.
Ouais.
Mais les bêtes, j'ai fait un stage en vache laitière. J'avais fait des stages dans d'autres élevages et je me retrouvais pas forcément dedans.
Ouais.
Je trouvais ça intéressant, mais je me serais pas vue me lancer dans ce type de projet.
Okay.
En tout cas, oui, ça m'a déjà
ça a pu
planter
des
graines de réflexion. Ouais.
Et donc, une fois que tu finis ton master, qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle?
Alors, suite à mon stage à installer en Massif Central, j'ai commencé à travailler avec des JA. J'ai d'abord été embauchée au JA de Haute-Marne et ensuite je suis retournée au JA de Bourgogne-Franche-Comté.
Où j'avais fait mon stage.
Ouais. Et donc, ça fait plus de 4 ans que je suis à JA BFC. Donc, ma vie de salarié est 100% JA. Hein.
Oui.
Je suis un produit.
Donc, tu maîtrises absolument tous les points de l'installation.
Ah ouais, je sais pas, mais bon, c'est vrai qu'à force, on les connaît quand même, à force.
Ok. À quel moment l'idée de te dire « je vais faire des lapins en gros » est arrivée?
C'est vrai que... là, comme ça, c'est pas un truc où je me suis dit, un jour, le matin, en me réveillant, je vais faire ça. C'est... En fait, quand j'étais en stage en licence, on m'a parlé d'un élevage de lapins angora. On me disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, improbable. Je me disais, est-ce que c'est des lapins domestiques? Est-ce que c'est... À quoi ça sert?
Ouais.
Et donc, j'ai été à une ferme ouverte sur l'exploitation de Josiane Marcilly, qui avait à l'époque un élevage angora dans l'Aube.
D'accord.
C'était très bien. J'ai acheté une pelote de laine que je n'ai jamais tricotée. Okay. Je trouvais ça super, mais j'avais peur de l'abîmer tellement je trouvais que c'était
précieux. Quoi.
Précieux. Ouais. Ouais. Et du coup, je me disais, non, mais tu peux pas tricoter ça. Tu vas la... Bon, concrètement, non, c'est assez solide pour survivre à n'importe quel tricot. Mais bon, à l'époque, je ne le savais pas. Et donc, des années plus tard, c'était à peu près à l'époque du confinement, juste avant le confinement, j'y suis retournée avec ma mère acheter de la laine. Et en fait, Josiane nous a montré toute son exploitation. Donc, les lapins. Elle était hyper pédagogue en plus, parce qu'elle faisait des visites. Donc, elle nous a montré le système d'élevage et toute la partie transformation avec le tricot de la laine. Oui. Et j'ai trouvé ça super. Je trouvais que c'était atypique. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette production, c'est qu'il y a le côté élevage, que je trouvais hyper important avec les animaux. Mais il y avait aussi toute la partie... on fait quelque chose de ses mains et quelque chose de beau, d'artistique. Il y a de la couleur, on peut faire plein de types de vêtements, d'accessoires. Mmh. Avec de la laine rare, donc je trouve que, enfin, je suis toujours contente du résultat de ce que je fais.
D'accord.
Et c'est
c'est ce qui a un point commun en fait avec d'autres éleveurs qui font de la transfo, par exemple, qui ont besoin d'avoir ce produit fini.
Oui. Ouais.
Et c'est en fait c'est la même chose, c'est-à-dire que, bon, en l'occurrence toi, ça ne te mange pas.
Oui.
Mais t'as quand même cette question de produit fini qui est important, quoi.
Ouais, c'est okay. Ça. C'est vraiment aller d'un bout à l'autre. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut bien dimensionner son temps.
Enfin, ouais.
Et ça, on a beau le dire et le savoir.
C'est un mieux placé pour le dire.
Voilà, mais... Ça faisait des années et j'avais fait du PAI avant. Donc, j'avais conseillé des personnes qui s'installaient en production diversifiée ou atypique. Et c'est toujours le premier truc que je disais. Mais quand on le vit, quand on est de l'autre côté, c'est pas du tout la même chose.
Ouais.
Quoi. Et on a beau toujours prendre des marges de sécurité, finalement, c'est jamais assez.
Ouais.
Enfin, et c'est tout. C'est comme ça fait partie de l'aventure. Quoi.
Ouais.
Aller jusqu'au bout. C'est super. Moi,
d'accord.
Je trouve ça super.
Du coup, après cette visite avec ta mère, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour arriver à l'arrivée des lapins?
Bah, en fait, pendant le confinement, j'ai beaucoup tricoté, parce que j'avais acheté pas mal de laine, et je me suis dit, c'est top. Alors, c'est un peu le cliché du confinement, mais c'est vrai que ça a été un moment où on était tous quand même un peu coincés chez soi, en face d'une visio. Enfin, en tout cas pour les personnes qui avaient des travaux, qui travaillaient au bureau comme moi, et de fabriquer, je trouvais que ça développait d'autres choses. Enfin, en tout cas moi, à la fin de ma journée, j'étais contente d'avoir créé quelque chose.
Ouais.
Et en fait, je me suis dit, mais j'aime les bêtes. Ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais faire quelque chose qui me ressemble. Et ça, enfin, en fait, c'est venu tout seul. C'est la seule filière, la seule exploitation que j'ai visitée où je me suis dit, j'aimerais vraiment faire ça.
Et est-ce que cette idée-là, tu as senti qu'un jour elle s'est imposée à toi, ou est-ce que tu as senti que ah, mais c'est vrai que j'aime bien tricoter, mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir un produit fini? Est-ce que tu as senti que c'est une petite construction jour après jour, et qu'il y a un moment où ça, bah oui, pourquoi je le fais pas?
Bah, en fait, c'est en discutant avec ma mère, donc j'en ai parlé comme ça en disant, ouais, c'est quand même super comme truc. Et puis en fait, on est retourné voir Josiane Marcy sur l'exploitation plus tard, enfin après le confinement, hein, en l'occurrence. Ma mère, je sais pas pourquoi, a dit à Josiane, oh bah, ma fille aimerait faire ça. Je me suis dit, mais pourquoi elle lui dit ça? Enfin, je suis pas sûre. Et en fait, bah si. Et je sais pas pourquoi ça m'a. Je me suis dit, bah oui, enfin oui, j'aimerais faire ça. Enfin,
ta mère,
ça m'a confirmé.
Elle avait compris avant toi que t'avais vraiment envie.
Ouais, elle doit bien me connaître. Je sais pas, mais ça a un peu verbalisé le truc, on va dire. Et donc après, bah, j'ai commencé vraiment à lui poser des questions techniques, à lui demander comment elle avait démarré. En fait, ça a sûrement enclenché cette relation avec elle où elle savait qu'elle arrêtait. Elle avait plus de 65 ans, je sais plus l'âge qu'elle avait. Elle cherchait quelqu'un, sachant que c'est vraiment une filière en déficit de renouvellement, très peu connue.
Oui.
Donc, voilà, elle avait ce truc de, bah, j'arrête, mais pour l'instant, personne ne veut reprendre ça.
Oui, parce qu'en agriculture, il y a la transmission du patrimoine et tout ça dont on parle très souvent, mais la transmission du savoir-faire.
Et ouais, exactement.
Mais en fait, ça peut facilement se perdre sur des petites filières comme ça, quoi.
Ouais. Ah oui.
Et souvent, c'est sur des agriculteurs qui n'arrivent pas à transmettre, c'est aussi une des grosses voies de frustration de ne pas réussir à transmettre leur savoir-faire, quoi, en plus.
Ouais,
donc, tu lui as apporté une solution en or, en fait.
Bah oui, oui. En fait, c'est comme ça que ça s'est enclenché, ouais. quoi. Où elle m'a dit, écoute, quand tu veux, on se voit, je t'explique. Et bon, bah moi, de mon côté, je me suis arrangée pour y aller régulièrement. Donc, elle m'a, au début, beaucoup montré l'élevage, parce que le lapin, c'est quand même un animal fragile. Ouais. Bon, finalement, concrètement, moi, ça se passe très bien.
On va en reparler un peu techniquement ouais. après, okay. ouais, mais...
Il y a eu toute la partie transmission de l'élevage, ouais. et ensuite, toute la partie, vraiment, transmission sur la fabrication et la commercialisation aussi. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui avait envie de transmettre, qui était hyper patient, et moi, ça m'a beaucoup aidé, quoi, ouais. à démarrer en toute bienveillance, avec quelqu'un qui, enfin, franchement, encore aujourd'hui, je vais la voir régulièrement, elle a plus de lapin du tout
oui.
maintenant.
Elle en a plus du tout?
Non, plus non. du tout, ouais. Bah, il en reste deux, mais voilà, c'est la, oui. c'est pas pour de l'élevage, oui. quoi, c'est ses anciens qui, oui. qu'elle garde, quoi.
D'accord.
Mais c'est vrai que ça a créé une belle relation aussi, quoi. Ouais. Je pense qu'elle est contente de voir des jeunes qui démarrent, parce qu'il y a une autre personne aussi qui a démarré et qui l'a accompagnée.
Ouais.
Et enfin, je pense que pour une fin de carrière, c'est chouette, ouais. quoi. Je oui, pense oui. que pour elle, c'est chouette aussi. Et pour moi, c'est
bah, idéal. C'est, oui, c'est du pain béni, ouais.
Oui, ouais.
Et alors, du coup, donc ta mère, on a compris, elle était un peu dans la confidence, ou tout le monde, elle avait compris avant tout le monde
ouais,
ce
ouais,
qui se tramait.
Bah oui, ouais.
Et ton père, du coup, j'imagine une grande culture dans la Marne, donc
ouais,
plutôt
mais...
l'agriculteur classique. Comment il a pris l'arrivée, enfin la potentielle arrivée de Petit Lapin?
Bah, franchement, quand mon père s'est installé, ils ont arrêté l'élevage. Lui, c'était pas son truc. Après, c'était l'élevage, c'était pas du tout le même type d'élevage. Hein. Mais moi, ce que je voyais, c'était la dimension élevage, mais aussi artistique. Enfin, artisanal plutôt. Et ma mère nous a beaucoup élevés là-dedans. Enfin, ma sœur est peintre, mon frère est guide touristique sur les batailles de la Somme. Enfin, tout ce qui est culture et art. Mes parents, mon père est aussi très, très cultivé. Enfin, donc en tout cas, le fait que je veuille faire une activité artisanale, je pense que c'est plus cette partie-là ouais. qu'ils voyaient. Il y avait aucun problème, quoi. Et on a toujours eu des animaux. Et mes parents aiment les bêtes, donc en fait, ils ont trouvé ça super. Et ce que, enfin, pour moi, je l'ai vu au fil du temps, et c'est toujours le cas. Que ce soit mon père, ma mère ou ma sœur, ils m'aident beaucoup dans mon projet, quoi. Enfin,
ouais.
voilà, quand je peux pas être là, bah ils sont là. Quand, enfin, je trouve quand même que c'est hyper confortable, mais c'est un super climat pour ouais. démarrer aussi d'avoir ça, quoi.
D'accord. Et donc concrètement, elle te transmet. On revient au concret. Elle te ouais. transmet tout son savoir. Faire toi quelle démarche tu dois faire, est-ce que tu dois je sais pas faire des formations parce que tu as des diplômes agricoles donc déjà tu as pas de soucis sur la capacité agricole
oui,
mais
ouais.
t'as pas forcément fait des études en élevage de lapins qu'est-ce qui ouais. se passe après plus techniquement pour toi?
Bah, en fait c'est de l'élevage de lapins mais comme mon revenu principal est issu de la vente de produits oui. tricotés d'étoffes à mailles j'ai dû démarrer une micro-entreprise mais à la chambre des métiers et de l'artisanat.
D'accord.
J'ai quand même fait une formation adulte, mais une formation de 3 jours
ouais.
hein, à la chambre. Donc c'est en Côte d'Or, ils ont la formation Cap Création, où en fait on dimensionne son projet,
D'accord.
à la fois économiquement, mais aussi au niveau temps de travail. Donc avec moi, j'avais des personnes qui allaient faire des champignons, des balades à cheval. Enfin, c'était que des profils atypiques. Hein.
D'accord.
Et j'ai trouvé ça top parce que au moins on voit, la plupart du temps, c'est de la reconversion pro.
Oui.
Ma particularité, c'est que moi, j'étais encore active puisque je suis restée salariée.
T'es plus réactif, en fait.
Voilà.
Même plus réactif.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que la difficulté que j'avais comparée aux autres, c'est que moi, j'étais pas à 100% sur mon projet. J'avais aussi tout ce temps-là à côté.
Ouais.
Et je l'ai toujours, hein. Du
oui.
coup, c'est sans arrêt. Faut un peu, des fois, ménager la chèvre et le chou. Mais pour démarrer, j'ai d'abord fait la formation à la chambre où on m'a dit, concrètement, c'est plutôt de l'artisanat. Donc ensuite, j'ai fait un pack micro à la CMA.
Ouais, à la Chambre des Métiers, ouais.
À la Chambre des Métiers, ouais. Donc j'ai fait une formation de 2 jours. Et puis, moi, je suis pas d'un caractère fonceur. Je suis plutôt à vérifier 15 fois, à réfléchir, à être sûr. Donc j'avais besoin de ça pour être sûr de où je mettais les pieds.
Ouais.
Et sachant que je mets les pieds dans quelque chose où, dans tous les cas, j'ai un revenu à côté. Hein.
Oui, oui.
Mais voilà, pour dire que moi, je suis plutôt à mettre.
Oui, mais dans quelque chose aussi où il y a du vivant à gérer, et donc forcément, t'as pas envie de faire de conneries non plus.
Oui,
quoi.
Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, c'est sûr. Je fais naître des animaux,
oui.
etc. Donc je m'engage pas dans un truc. C'est pas un dossier qu'on ferme, mais qu'on s'emballe 6 mois.
Et quels sont les premiers lapins qui sont arrivés?
Alors les premiers lapins c'était en 2021, donc Josiane m'a vendu 2 lignées de lapins que j'ai fait reproduire, donc que j'ai toujours, hein, puisque un élément aussi de cet élevage-là, c'est que les lapins meurent naturellement, meurent de vieillesse,
oui.
puisqu'ils peuvent fournir du poil toute leur vie.
D'accord.
Donc, du coup, mes lapins, je les aurais jusqu'à...
Et vu que des lapins, ça lapine, mais il y a même petits.
Ah oui, bah, il faut vraiment les séparer. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on m'a longtemps dit, mais pourquoi ne pas essayer l'élevage en groupe? c'est risqué.
C'est 500 hectares qu'il me faut dans 3 ans.
C'est ça.
Donc, okay. Donc, elle t'a rendu deux lignées. Donc, des lignées, ouais. C'est quoi? C'est qu'elle t'a rendu un mâle et une femelle de...
Oui, enfin... de familles différentes.
Ouais, voilà, c'est ça, pour éviter la consanguinité.
Voilà. Donc, j'ai eu un mâle et deux femelles, et donc, j'ai fait faire des portées, et dès le mois suivant, j'ai eu 17 petits. Donc, oui. Sachant que j'avais, à l'époque, j'avais 9 places, il y a eu une crise du logement, il a fallu, que je m'équipe, hein, mais bon, ça s'est fait.
Et concrètement, ça se représente comment?
Moi, ils sont en clapier sur paille. Actuellement, tous les éleveurs Angora de France ont le choix, en tout cas tous ceux qui sont dans la démarche Angora de France avec l'association des éleveurs français, on fait partie d'une charte de bonnes pratiques d'élevage où on a des dimensions de clapier, où on a des enrichissements à mettre dans les clapiers, etc. Alors moi, la particularité que j'ajoute depuis que j'ai démarré, c'est que j'ai des lapins que je mets ensemble. J'essaye de pas isoler mes lapins.
Ouais.
Il y en a où il y a un caractère que j'arrive pas à... Mais j'essaye d'en mélanger et ça marche. Et je les sors aussi à l'extérieur quand je peux. Alors bon, un lapin, faut pas, enfin, comme il mange principalement d'alimentation sèche, je les sors quand l'herbe est plus mouillée.
Ouais.
Donc c'est sur un créneau horaire. ou le soir des fois. Enfin, alors mes parents ont un chien de chasse et on est dans les champs, donc il y a aussi les renards. Enfin, faut quand même réfléchir. Et moi, le projet à long terme, ce serait d'essayer de faire en sorte de pouvoir les sortir tous les jours, donc avec un système que je dois développer. Mais l'Angora de France a jamais été sorti en extérieur. Donc moi, j'essaye parce que ça fait vraiment partie de mon projet.
Ouais.
Après, j'essaye. Ouais. Ça se passe bien, hein. Mais c'est sûr que oui, ça demande quand même un peu plus de temps et d'organisation. C'est comme les chevaux en fait. Il faut pas mettre n'importe lesquels en face de n'importe lesquels. Enfin, c'est ça. Ils ont tous un caractère et c'est.
Ok. Est-ce que tes lapins, ils ont un nom?
Oui, ils ont tous des noms.
Ok. Donc je vais faire la même question que pour les vaches. C'est qui le plus sympa?
C'est Regina. C'est ma plus ancienne.
Et le plus relou?
Selfie.
Pourquoi?
Elle grogne à chaque fois que je lui donne à manger.
D'accord.
Elle a peur que je touche à sa gamelle et à chaque fois, elle grogne quand j'arrive. Donc, voilà.
Les lapins, donc les angoras, c'est des lapins blancs, des gros lapins blancs. Et ça pèse combien à peu près pour expliquer
Ça pèse, 3 kilos. Ça dépend. Après, moi, ils sont assez petits, les miens. Donc, justement, là, je vais reprendre des lignées de lapins, d'autres élevages. Ouais. Pour essayer. Il faut aussi que je change un peu le sang régulièrement. Ouais. Donc, voilà, il faut que je ramène un mâle ou une femelle de l'extérieur pour renouveler. Mais c'est assez gros comme lapin. Le poil fait qu'ils ont l'air très imposants.
Oui, c'est ça.
Donc moi, c'est des blancs parce que logique, il faut qu'ils soient blancs pour pouvoir teindre la laine par la suite. Mais il existe des lignées aussi de croisements. Par exemple, l'Angora croisé fauve de Bourgogne. Il y en a aussi des noirs. Il y en a des gris.
Ouais.
Donc moi là, j'ai démarré. J'aimerais démarrer une lignée de fauve de Bourgogne. Donc là, j'ai essayé une portée de petit qui n'a pas marché, mais j'ai un mâle justement pour essayer de refaire une portée. Ouais. Donc l'idée ce serait de faire de la couleur camel avec le poil.
D'accord.
Donc, naturel, aucune teinture.
Ouais.
Juste filer.
Concrètement, comment tu fais pour récupérer du poil sur un lapin? Non, comment, en fait, c'est quoi le cycle d'élevage d'un lapin?
Ouais.
C'est quoi les différentes étapes dans l'année? Enfin, je sais pas si c'est à l'année ou si c'est au mois. Enfin, voilà, comment ça se...
Bah, en fait, je dirais que ça se détermine à la naissance du lapin. Parce que, une fois qu'il est sevré, en gros, il est sevré à 5 mois, il a un premier cycle poilier. Ensuite, on travaille en fonction des cycles poiliers.
D'accord.
Donc le cycle du poil, c'est propre au lapin et en fonction du moment de sa croissance, quoi. Donc on peut arriver à décaler des cycles de poil, mais bon, on peut pas non plus. La nature fait que on peut pas. Je peux pas me dire tiens en août je fais tant de lapins, en septembre tant. En gros tous les 3 mois on récolte le poil. Et le poil, donc il y a une mue naturelle qui se fait sur l'angora. Le lapin angora a été sélectionné depuis 200 ans pour ça.
Ouais.
Il est brossé et le poil est récupéré. Mais on accompagne la chute du poil avec du lagodendron. En fait, c'est un granulé dans lequel il y a du lagodendron qui est une plante de la famille du mimosa.
D'accord.
En fait, et qui permet d'accompagner la chute du poil.
Donc, du coup, de la favoriser ou de la
favoriser. En fait, ça agit sur le follicule pileux qui se décroche plus facilement. J'ai des lapins où il n'y en a pas forcément besoin, mais il y en a où, j'en mets, il y en a, je sais qu'il faut le mettre systématiquement parce que ça se décroche pas, ça dépend.
Et tu commences à récolter les poils à partir de 5 mois?
Bah 5 mois, il y a une première, il y a un premier décrochage, mais vraiment c'est du duvet en fait, c'est le poil de bébé comme on appelle ça.
Et ça, t'arrives à le valoriser ou pas?
Alors tout ce qui est poil de bébé, donc c'est valorisé en feutre et ça on l'utilise en fil à chaussettes.
D'accord.
Qui est filé en manufacture.
D'accord.
Et ensuite tout le poil adulte, il est récupéré, filé pour du fil à plotte et c'est celui-là qu'on tricote.
D'accord, ok.
Donc voilà, il y a deux.
Donc t'as deux trucs, Ok. Ouais. Aujourd'hui, t'as combien de lapins là sur adulte que tu peux brosser?
J'en ai 19.
D'accord.
19, parce que j'ai 21 places pour l'instant. Mais l'idée, c'est arriver l'hiver prochain à 39 places. Donc après, je pourrais refaire des petits, avoir du poil de bébé.
parce qu'en fait, ça dépend aussi vachement
Voilà. Après, j'ai eu la chance d'avoir Josiane qui, justement, arrêtait, mais elle avait encore des bébés, elle avait encore du poil. Donc j'ai démarré avec... j'ai racheté le stock de... une partie du stock de pelote et une partie du stock de feutre de Josiane. D'accord. Qui m'a permis de démarrer au début, plutôt que d'attendre 2-3 ans le temps d'avoir du stock.
Ouais.
Et voilà, enfin, en tout cas, ça m'a... C'est encore la laine que j'ai là, aujourd'hui. C'est un mélange de la mienne et encore de celle de ma sédante, entre guillemets.
D'accord, ok. Voilà. Donc, une fois que... Comment tu le récupères, le poil?
Eh ben, le poil, par brossage. Alors, il y a des fois, la paille du lapin est couverte de poils. Hein. Ça se décroche, c'est assez
impressionnant. Et tu arrives à la récupérer dans ces cas-là?
Oui, ouais. Alors, des fois... des fois, non. Hein. Des fois, il a tout retourné. Ouais. Donc, voilà. Ça dépend. Ça dépend des lapins, en fait. Hein.
C'est toujours les mêmes qui font les trucs...
Ça qui est surprenant. Je connais. Mais il y en a, non. C'est des fois, ça dépend des périodes de l'année aussi. L'hiver, ils retournent beaucoup leur paille parce que je pense qu'ils kiffent ça. Il fait frais, donc ça dépend. Mais donc ça tombe un peu dans le clapier et ça tombe beaucoup quand moi je récupère le poil en mettant le lapin sur mes genoux et des personnes qui les mettent sur une table. Il y a plein de systèmes, mais moi j'ai appris comme ça. Je prends le lapin sur moi comme un chat et je le brosse et le poil se décroche directement.
D'accord. Et donc en fait la tombée des poils, elle est synchronisée entre tous tes lapins?
Alors par portée oui. Par exemple les 17 que j'ai eu là il y a pas de problème. Par contre après les plus anciens, c'est un mâle que j'ai eu à une époque, une femelle. Enfin donc là c'est pas synchronisé, mais des fois j'essaye de rapprocher la chute des poils puisque pour l'instant mes lapins sont encore chez mes parents sur l'exploitation. Donc du coup, ça me permet de rentrer un bon coup et de les fermer. Oui. Mais le décalage, il peut se faire d'une semaine ou deux, par exemple. Oui, c'est pas grave. Sur la qualité du poil.
Ta mère, elle brosse les poils du coup.
Par contre, je me suis toujours arrangée. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est vaccin, soins, récolte du poil.
D'accord.
Et les nettoyer. La plupart du temps, c'est moi. Bon, des fois, c'est aussi ma mère. Mais les gros trucs, les grosses interventions, c'est toujours moi parce que
c'est ton plaisir aussi. Ouais, bien sûr.
Oui. Et puis,
si t'en avais un qui décalait d'une semaine, peut-être que.
Ça aurait pu, mais bon, je veux pas trop l'embêter avec ça. Elle m'aide déjà beaucoup, donc voilà, on s'est arrangé comme ça. Je pense que ça arriverait, elle m'aiderait, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de décalage.
Une fois que t'as brossé tes 19 lapins, ça représente quoi en volume à peu près?
Alors, moi, ils donnent pas forcément beaucoup de poils, mes lapins. Donc, ça va de... j'en ai 80, mais bon, c'est vraiment peu. Et j'en ai qui me donnent 300, par mu.
D'accord.
Donc, c'est 3 fois par an.
Ah oui, d'accord.
Tous les 3 mois.
Ça fait presque 1 kilo par an, quoi.
Ouais. Sachant que 1 kilo par an, c'est pour énorme. Un lapin, c'est énorme. Ouais. C'est mais clair. Comme ça tombe 3 fois dans l'année, voire 4, c'est vrai que c'est assez impressionnant en quantité. Et le poil, pour faire une pelote de laine, j'ai besoin de 25 grammes. Alors, sachant qu'il y a toujours...
il y a un peu de déchets, j'imagine.
Voilà, il y a un peu de déchets. Moins qu'en mouton, parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, le poil de lapin, il n'est pas gras.
Oui, il n'y a pas de chair,
Voilà. Donc, il est assez... Il y a moins de déchets, mais il y a quand même forcément un peu de perte.
Est-ce que c'est comme pour les filières cuir, où il faut que tu fasses hyper attention à ce que, justement, tout l'environnement de ton lapin, il soit bien sécurisé pour pas qu'il y ait de blessures sur la peau, pour pas qu'il y ait de... Même si c'est jamais souhaité, tu vois, mais des fois, ça peut arriver, c'est un être vivant, et il peut aussi être un peu couillon et aller se jeter contre une grille.
C'est sûr. Il n'y a pas de réglementation ou quoi que ce soit dessus.
Ça n'impacte pas le poil.
Non, sachant que son poil, il pousse sur tout le corps. Mmh. Après, je récupère pas, par exemple, les pattes, ça se décroche pas, leur visage non plus, donc ça,
Ça fait, tu ressembles à des caniches toilettées à la fin, quoi.
Oui, c'est ça. Vraiment, on dirait qu'ils sortent du toiletteur à chaque fois. Mais c'est nécessaire, parce que Les lapins, après, ils peuvent feutrer. En fait, ils font des nœuds.
Ouais.
Et là, c'est, il y a rien à faire à part couper. Hein. Donc, c'est des lapins qui n'ont pas évolué dans la nature, quoi. Ils ont été façonnés. La race, il y a des siècles, a été façonnée par l'homme.
Ouais.
Et c'est comme, enfin, je connais pas non plus toutes les races de chiens, mais par exemple, un chihuahua, c'est une race qui a été sélectionnée pour ses les qualités qu'il a aujourd'hui. Et voilà, dans la nature, enfin, ça demande un entretien pour qu'ils vivent correctement. C'est pareil pour les lapins.
Tu l'as dit tout à l'heure, tu fais les vaccins, ça veut dire que d'un point de vue sanitaire, il y a des... c'est quoi les risques pour un lapin ?
Potentiellement le VHD, la fièvre hémorragique, donc ça c'est la grande crainte où moi je fais pas d'impasse sur le vaccin. Il y a aussi la myxomatose qui peut arriver. Bon, là on a eu des années plutôt sèches jusqu'ici, donc pas d'épidémie dans le secteur. Après là cette année, en tout cas dans la Marne, il y a pas mal plu et c'est vrai que les moustiques c'est pas mes potes.
Ouais. Okay. Et comment tu fais du coup pour prévenir la myxomatose ?
Bah vaccin aussi.
Ouais, okay.
Je vaccine les deux à chaque fois en début d'année. Vaccins au début d'année.
Et ça vaut pour un an.
Bah normalement oui. Ouais. Après je touche du bois. Pour l'instant j'ai pas eu de problème. Mais bon après. Le lapin est quand même. Enfin quand il y a une épidémie c'est. Après il y a de moins en moins d'élevage de lapins finalement. Même
donc ça se transmet moins.
Je pense qu'il y a 50 ans c'était certainement beaucoup plus courant qu'aujourd'hui où finalement des éleveurs de lapins il y en a plus beaucoup parce que ça demande du temps. C'est des bêtes qui sont chacune dans des habitats qu'il faut changer régulièrement. Ouais. C'est pas. Les gens mangent de moins en moins de lapins.
Oui.
Bon moi en l'occurrence je les mange pas mais c'est vrai qu'il y a moins de lapins dans les fermes aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai.
C'est des risques en moins pour moi aussi. Quoi.
Une fois que tu les as récoltés, ta laine, qu'est-ce que tu en fais ?
Alors, ma laine, je la stocke.
Enfin, tes poils, pardon.
Oui.
Non, pardon, tes poils, une fois que tu les as eus, qu'est-ce que tu en fais ?
Ouais. Donc, les poils, je les stocke jusqu'à ce que j'arrive à, on va dire, à peu près 10 kilos de poils. Moi, avec ma petite vingtaine de lapins, au bout d'un an, j'y arrive aujourd'hui. Mais je pense que je pourrais avoir plus, mais c'est mes premiers lapins. Je pense qu'il y a tout peut être amélioré hein, de toute façon. Mais pour l'instant, j'en suis là. En fait, on organise des battues. En fait, tous les éleveurs
battues.
Oui, c'est vrai que le mot on l'appelle ça battue. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en fait, on rassemble les poils de tous les éleveurs et on le fait transformer par un filateur français. En fait, la filière Angora essaye de faire fonctionner les filatures françaises. Mmh. Alors, il y en a plus qu'une ou deux en France qui filent en grosse quantité.
Ouais.
Alors en grosse quantité, tout est relatif, mais il faut qu'on arrive à un certain volume de poils pour qu'il y ait une transformation. Après, il y a des plus petites filatures, mais qui coûtent plus cher. En fait,
d'accord.
On essaye de
fuser. Du coup, vous regroupez votre laine, vos poils à l'échelle de la France.
Ouais. Mais parce que en France, il y a une vingtaine d'éleveurs angora. Dans les années 80, il y en avait des milliers.
D'accord.
C'est vrai que c'est vraiment une filière qui a souffert de l'arrivée des fibres asiatiques, enfin de la mondialisation.
Ouais.
Depuis 40 ans, c'est vraiment, vraiment en déficit de renouvellement. Là, actuellement, on est 3 porteuses de projets en France depuis 5 ans. Quoi.
D'accord.
C'est déjà bien, entre guillemets. Ouais. Et les éleveurs en place, pour la plupart, ont 50, 60 ans.
D'accord.
Donc, c'est vrai que...
Il y a des gens dont c'est la seule activité ?
Oui.
Ouais.
Alors, la plupart.
D'accord.
Pour la plupart, c'est leur seule activité. Ou des fois, ils ont l'exploitation à côté. Donc, c'est un atelier de l'exploitation.
Oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ils sont agriculteurs, mais ils vont avoir, des grandes cultures et puis les lapins à côté ou des vaches.
Il y en a où ils ont les deux en même temps. Il y en a où ils n'ont vraiment que l'élevage avec la valorisation transformation.
Ouais.
Il y en a aussi qui font uniquement la production de poils.
Et qui font pas tout le reste.
Ils font pas la transfo ni la commercialisation. Moi, sachant que c'était une activité secondaire et que j'étais vraiment intéressée aussi par la partie artisanale, pour moi, c'était
évident que tu voulais transformer ta production.
Voilà.
Donc, une fois que tu les récupères, donc ils sont filés dans la filature, ils te reviennent.
Ouais.
Ils te reviennent teintés.
Alors en fait, il y a trois étapes.
Oui.
Donc il y a d'abord la filature, ensuite la teinture et ensuite la mise en pelote.
D'accord.
Et donc moi je les récupère mis en pelote. Je choisis les couleurs. Alors comme on n'est plus beaucoup d'éleveurs, mais qu'on essaye de fonctionner toujours ensemble, on choisit les couleurs ensemble, puisque en général c'est par bain de teinture. Hein, donc il faut un certain volume aussi à atteindre en même temps, donc faut qu'on s'accorde sur les couleurs. Bon, en général on prend à peu près les mêmes, donc ça roule. En gros moi je récupère les pelotes faites. Et ensuite je vends des pelotes, mais je vends aussi des produits tricotés.
D'accord. Et alors c'est toi qui tricotes ?
Ouais, je tricote, ma mère m'aide aussi.
Ouais.
pratiquement tous les produits transformés que je vends sont, enfin, transformés, tricotés, quoi. Ouais. Hein, c'est moi ou ma mère. Après, je vends aussi des plots, et là, depuis, pour l'hiver prochain, puisque la commercialisation fonctionne à partir du mois de septembre.
Oui, hein, oui, moi, au mois d'août, j'ai pas envie d'acheter.
Voilà. Enfin, et c'est normal, même moi, le tricot au mois d'août, là, en ce moment, c'est, il fait un peu trop chaud pour tricoter. Mais oui, je veux démarrer des kits tricot, justement, pour arriver à vendre de la plotte, et aussi parce que je me suis rendu compte. Au début, mon projet, je voulais transformer un peu, mais je voulais aussi donner goût au tricot, avec un produit, quand même, de qualité, quoi. Ouais. Tricoter de la belle laine pour un bon résultat. Mais c'est vrai qu'en fait, les gens tricotent très peu. Il y a vraiment eu une génération qui a arrêté, hein, les tricots, les bocaux, les, enfin, voilà, beaucoup de choses. Ouais. Donc, sans vouloir incriminer une génération.
Non, mais
c'est le cas, c'est un constat. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de transmission sur le tricot pour la plupart des gens qui devraient apprendre par Internet ou des cours ou avec des rencontres. Et c'est vrai que, du coup, je veux aussi arriver à réinsuffler ça, d'apprécier tricoter, d'apprécier la fabrication manuelle, quoi. Ouais. Donc, voilà. Du coup, j'essaye de, pour cette année, j'aimerais développer ça, quoi.
D'accord.
Prendre plus de plots.
Donc, tu t'occupes de l'élevage, tu t'occupes de gérer, toute la, enfin, même si c'est pas toi qui file, pas toi qui teint, tout ça, de, gérer la logistique.
Ouais.
Tu t'occupes de la transfo, tu t'occupes de la commercialisation aussi.
Ouais, ouais.
Et tu dors?
Bah, ça va, parce que, en termes de volume, il y a des éleveurs qui ont 100, 200 lapins. Moi, j'en ai 20. Donc, en termes de, par exemple, de gestion d'élevage, ça va. Tout est, forcément,
tout
mon volume
coup,
est plus faible que quelqu'un qui en vit. Mais c'est clair que, toutes les étapes, il faut arriver quand même à, faut pas s'endormir, quoi. Et c'est vrai que, sur la partie commercialisation, enfin, c'est la dernière que j'ai testée, hein, forcément. C'était pour les marchés de Noël l'année dernière, et en fait, j'ai vraiment kiffé. Enfin, c'est super de pouvoir en parler, enfin, c'est aussi une reconnaissance de voir que les gens s'y intéressent, trouvent ça beau, le tricote et ont plaisir à le tricoter, ou à le porter, hein. Et c'est vrai que cette dernière partie-là, c'était un peu celle que je redoutais. Et en fait, super accueil de la part des gens. Il faut expliquer ce que c'est, hein, parce que c'est sûr qu'au début, de la laine de lapin, c'est pas très connu. Mais justement, c'est, moi, je trouve ça super. J'ai découvert ça. Je me suis aussi découvert un peu autrement, quoi.
Ouais, d'accord. Ça t'a permis d'acquérir une nouvelle compétence que t'as même pas soupçonné, quoi.
Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que c'est, enfin, en tout cas, pour moi, c'est une partie que je veux maintenir, quoi.
D'accord, ok. Impeccable. Tu as parlé tout à l'heure d'une association qui s'appelle Angora France. Comme souvent sur des productions, j'aime pas le mot atypique, mais un peu plus minoritaire, on va dire, par rapport à des grosses productions, enfin, à des productions très présentes où il y a énormément de références. J'imagine que ce soit d'un point de vue technique, en termes d'équipement, tout ça, en fait, vous êtes tout le temps dans l'expérimentation. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir tout le temps des échanges entre éleveurs pour, j'ai essayé ça, les gars, n'essayez pas, ça marche pas. Ou j'ai essayé ça, c'est peut-être pas mal comme idée. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des échanges
C'est vrai que, moi, je me trouve assez chanceuse parce qu'on arrive dans une filière où les personnes qui vont arrêter ont vraiment conscience que, enfin, c'est des gens passionnés, qu'ont quand même passé leur vie à travailler avec le lapin, ont transformé, ont vendu, et ils prennent vraiment la transmission du savoir-faire, l'expérimentation et le réseau très au sérieux. Enfin, ils veulent vraiment essayer de retransmettre tout ça, et donc on a des rencontres chaque fois, on apprend beaucoup de choses. C'est des gens qu'on fait ça pendant 30 ans, donc je trouve que c'est une filière qui est très petite, mais les gens sont assez, essayent de faire beaucoup de liens pour ne pas perdre ça, quoi.
Ouais.
On est quand même réunis par ce même objectif, donc
d'accord.
c'est une richesse, je trouve.
Ouais, ok. Donc le tac au tac.
Attention.
Quel est le dernier film que tu as aimé?
Interstellar.
Ok. Le dernier achat que tu as fait pour ton métier d'éleveuse, du coup, ou de tricoteuse?
Ah oui, c'est des enrichissements. Donc en fait, c'est des grands pelets de luzerne pour mes lapins qui roulent. C'est comme un jeu.
D'accord.
Donc, ils peuvent jouer dans leur cabane.
D'accord. La dernière chanson que tu as fredonnée?
Melody Nelson de Serge Gainsbourg.
Ok. Et la dernière recherche Google que tu as faite?
Dans le cadre des lapins?
Non, aujourd'hui.
C'était sur l'Écosse, puisque je pars dans 2 semaines. Donc,
d'accord.
Voilà, rien à voir.
Ok. Mais oui, non, mais c'est, il y a pas de mal. Est-ce que t'es fière aujourd'hui?
Ouais, franchement, je suis fière d'avoir réussi à créer cet atelier-là en restant active dans mon boulot. J'ai toujours aimé, avoir trouvé l'équilibre entre les deux et que ce soit complémentaire. Et puis, fière de mettre de l'artisanat dans le milieu agricole aussi, enfin, d'arriver à mêler les deux et d'avoir un produit qui me plaît.
Ok. Comment tu t'y sens dans tes bottes?
Très bien.
Merci Lucille.
Merci Mathilde.
On peut conjuguer activité agricole et dimension artistique. On peut être salarié à temps plein et développer une activité d'élevage en parallèle. On peut ne pas aimer les sciences et s'épanouir dans le milieu agricole. Enfin, on peut avoir fait un bac agricole et avoir cheminé jusqu'à un master 2 en géographie. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.